Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 17 Shahrivar, 1401 du calendrier iranien, 8 septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique est politisé et n'est qu'un jeu de mots, a déclaré le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Téhéran a rejeté les allégations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Réunion de la Ligue arabe, l'Iran réagit aux accusations. Et Israël poursuit ses crimes en Cisjordanie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran affirme que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur son programme nucléaire pacifique n'est rien qu'un jeu politique. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, affirme que le rapport ne contient aucun élément de fond et que l'agence ne fait que jouer à la politique avec ses fausses allégations répétées. Selon lui, le programme nucléaire pacifique de l'Iran a été le plus transparent jusqu'à présent. Il a noté que l'Iran n'acceptera pas la surveillance de ses activités nucléaires au-delà de l'accord de garantie, à moins que les parties de l'accord de 2015 ne remplissent leurs obligations et relèvent les sanctions. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. L'Iran a réagi aux dernières accusations porté lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, les qualifiant de partiaux et mal informés. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que ces allégations montrent que certains gouvernements n'ont pas une bonne compréhension du cours des développements en Asie occidentale et des réalités sur le terrain. La réunion ministérielle de la Ligue arabe s'est tenue mardi au Caire, la capitale égyptienne. Dans leur communiqué final, les participants ont accusé l'Iran d'ingérence dans les affaires intérieures des États arabes. Nasser Kanani a conseillé à ces États de se concentrer sur les atrocités d'Israël contre les Palestiniens au lieu d'utiliser une rhétorique aussi creuse et répétitive. Selon le responsable, Téhéran est comme toujours prêt à engager un dialogue constructif avec ses voisins et à régler les malentendus par la diplomatie. Les forces d'occupation israéliennes ont abattu ce 7 septembre un jeune Palestinien dans le camp de réfugiés d'Al-Fara, au sud de Tubas, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Younes Hassan Taye, 21 ans, a succombé aux suites de ses blessures d'une balle directe au cœur tirée par les soldats de l'occupation dans le camp d'Al-Fara. Les forces d'occupation israéliennes avaient pris d'assaut le camp de réfugiés, attaqué et fouillé plusieurs maisons, ce qui a abouti au déclenchement des affrontements au cours desquels des soldats israéliens ont tiré des balles réelles, des bombes sonores et de gaz lacrymogènes. L'armée israélienne mène des incursions quasi quotidiennes en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année, au cours desquelles plusieurs Palestiniens ont été tués. Depuis le début de l'année, l'armée israélienne a tué plus de 140 Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qu'Israël occupe illégalement. Les États-Unis promettent un autre programme d'aide militaire à l'Ukraine dans le cadre de la guerre en cours avec la Russie. Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, a déclaré que le président Joe Biden a approuvé 675 millions de dollars d'armes supplémentaires pour l'Ukraine. Cette nouvelle aide américaine comprend notamment des systèmes de lance-roquettes, des obusiers de 105 mm, des munitions d'artillerie, ainsi que des véhicules blindés, ambulances, systèmes anti-chars, armes légères et plus encore, a détaillé Austin devant les journalistes. D'autres pays, dont l'Allemagne, devraient eux aussi annoncer dans la journée de nouvelles aides. À ce soutien militaire s'ajoute une aide de 2 milliards de dollars à l'Ukraine et à ses voisins, annoncée jeudi 8 septembre par le Département d'État américain. Elle se matérialisera sous la forme de prêts et subsides pour acheter des armes américaines en pleine contre-offensive de Kiev. Les États-Unis, premier fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, avaient promis en août de fournir pour 13,5 milliards de dollars d'armements divers, notamment des missiles anti-char Javelin, des pièces d'artillerie et des obus compatibles avec les systèmes de l'OTAN. Le Mali et la République de Guinée se retrouvent devant l'histoire pour lutter contre le terrorisme, a déclaré mercredi le ministre guinéen des Affaires étrangères. Porteur d'un message du président guinéen de la transition, il s'est exprimé à l'issue d'une audience accordée par le président malien, le colonel Assimi Goïta. Il a rappelé que depuis 2012, des contingents guinéens contribuent dans cette lutte contre le terrorisme au Mali. Il a précisé que très bientôt, une évolution majeure dans ce domaine sera constatée. Le diplomate guinéen a en outre déclaré « Le président m'a donc chargé de réitérer son engagement à suivre le chemin tracé par le père fondateur, Ahmad Sékou Touré, et le colonel Goïta a montré le chemin de la reconquête de la dignité africaine. Selon lui, tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée, ajoutant qu'avant la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, les Nations unies, il y a eu ce qu'on appelle le voisinage immédiat. La Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays à voisinage immédiat, a-t-il précisé. Il a par ailleurs ajouté que le président guinéen et son homologue malien travaillent à redynamiser ces relations et les mettre au service des peuples. Il a cependant rappelé que le Mali et la Guinée ont déjà de renforcer les corridors routiers, ferroviaires et aériens. la Corée du Sud a proposé jeudi à la Corée du Nord d'organiser des discussions à propos d'une réunion des familles séparées par la guerre de Corée de 1950 à 1953, la première ouverture diplomatique directe de Séoul à l'égard de Pyongyang depuis le début du mandat du nouveau président sud-coréen. Le ministre sud-coréen de l'unification, qui est chargé des affaires intercoréennes, a effectué cette proposition lors d'un point de presse, déclarant que Séoul tiendrait compte des préférences de Pyongyang pour choisir la date, le lieu, le programme et le format des pourparlers. Des réunions familiales ont été organisées par le passé aux alentours des principaux jours fériés, principalement à l'initiative des gouvernements libéraux sud-coréens qui ont cherché à renouer le dialogue avec le Nord. La proposition de Séoul, inattendue, pourrait ne pas porter ses fruits étant donné les tensions frontalières actuelles, alors que Pyongyang a multiplié cette année les essais de missiles. En outre, cette offre intervient dans un contexte de relations intercoréennes très tendues, Pyongyang accusant Séoul d'être responsable de la récente épidémie de COVID-19 qui a frappé le pays tout en menaçant son voisin de représailles. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a critiqué le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme nucléaire du pays comme politiquement motivé, affirmant qu'il ne contient rien de nouveau, rien qu'un jeu de mots servant certains objectifs politiques. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré jeudi que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique était une répétition des précédents problèmes sans fondement à des fins politiques. Le responsable iranien a déclaré que certains médias internationaux déforment et interprètent parfois les phrases que l'Agence internationale de l'énergie atomique utilise délibérément de manière vague et ambiguë et sont pleines de détails et d'ambiguïtés inutiles pour alimenter une campagne politique et médiatique creuse visant à insinuer que le programme nucléaire de la République islamique d'Iran n'est pas un programme pacifique. Le programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran a été le plus transparent jusqu'à présent, a déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Il a déclaré que la République islamique d'Iran n'accepterait la vérification de ses activités nucléaires civiles au-delà de l'accord de garantie que si les parties à l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de plan global d'action conjoint, remplissent leurs obligations conformément à l'accord et lèvent les sanctions économiques contre la République islamique d'Iran. Il ne devrait pas s'attendre à ce que la République islamique d'Iran soit ouverte à des inspections au-delà de l'accord de garantie lorsqu'ils ne remplissent pas leurs obligations et tant que leurs sanctions oppressives contre la nation iranienne se poursuivent, a souligné le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi. Dans son dernier rapport, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré mercredi que le stock d'uranium de l'Iran, enrichi jusqu'à 60% de pureté, a augmenté bien au-delà de la quantité suffisante pour une bombe nucléaire, si elle est encore enrichie. Les mesures de la République islamique d'Iran viennent en réponse au retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint en 2018. Retirant Washington de l'accord de 2015, le président de l'époque des États-Unis, Donald Trump, a imposé de sévères sanctions économiques à la République islamique d'Iran dans ce qu'il a appelé une politique de pression maximale pour parvenir, selon lui, à un meilleur accord. La République islamique d'Iran a attendu un an pour voir si les autres signataires de l'accord peuvent sauvegarder ses intérêts économiques. Ne voyant aucune mesure pratique, la République islamique d'Iran a commencé à réduire ses engagements envers le plan global d'action conjoint en mai 2019 par étapes claires et annoncé à l'avance et sous la supervision des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Parlement iranien a également ratifié un projet de loi obligeant le gouvernement à étendre les activités nucléaires de la République islamique d'Iran en réponse aux violations commises par la partie américaine. La République islamique d'Iran a adopté également des mesures correctives conformes au paragraphe 36 du plan global d'action conjoint, mais ces mesures sont révocables si les autres parties de l'accord respectent leur part d'obligation. La capitale autrichienne, Vienne, a accueilli de nombreuses séries de pourparlers depuis l'année dernière pour examiner la perspective de la restauration de l'accord de 2015 et de la suppression des sanctions illégales et injustes imposées à la République islamique d'Iran.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Selon les dernières informations diffusées par les médias occidentaux, l'accord nucléaire et le projet nucléaire proposé par l'Union européenne à l'Iran sera présenté et mis en œuvre en plusieurs étapes. Mais d'un autre côté, les politiques de deux poids deux mesures de l'Agence internationale de l'énergie atomique vis-à-vis de l'Iran ne commencent qu'à servir les intérêts du régime sioniste et met également en cause son impartialité vis-à-vis de cet accord, mais également du programme nucléaire iranien. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avait annoncé lors d'un discours et d'un point de presse qu'un accord serait apporté demain si les États-Unis faisaient preuve de bonne foi et que si toutes les sanctions seraient levées contre l'Iran. Alors, qu'en sera-t-il de cet accord, de ces négociations qui durent depuis des mois, surtout après le retrait unilatéral de Donald Trump et donc des États-Unis, de cet accord autrefois entre l'Iran et les 5+1, mais maintenant entre l'Iran et les 4+1. On en saura plus dans quelques instants avec les analyses de nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet préparé par mes collègues et on revient tout de suite après.
Un média américain prétend que le projet d'accord nucléaire présenté par l'Union européenne envisage une mise en œuvre de l'accord en plusieurs étapes. Le site américain Axios a écrit le 31 août que selon le projet d'accord sur le nucléaire présenté par l'Union européenne, la mise en œuvre de l'accord se déroulerait en plusieurs étapes. Les partenaires du plan global d'action conjoint PGAC de 2015 nous passeraient à l'étape suivante qu'après la mise en œuvre complète des mesures qu'elles se sont engagées à prendre, ont indiqué des sources informées du projet au site Axios. D'après le projet proposé par les Européens, le jour de mise en œuvre réimplantation Day du PGAC serait 120 jours après la signature d'un nouvel accord. Axios explique que le jour de la mise en œuvre du PGAC serait la troisième étape et devrait avoir lieu 4 mois après la signature de l'accord sur le nucléaire. À ce stade, l'Iran devrait terminer la mise en œuvre des restrictions de son programme nucléaire et reprendre le régime d'inspection complet de l'AIEA sur ses sites nucléaires, ont indiqué les sources. À cette troisième étape, les États-Unis lèveraient en retour toutes les sanctions secondaires contre l'Iran et prendraient d'autres mesures, notamment en s'engageant avec le secteur privé sur la manière de faire des affaires avec l'Iran. Le site Axios a affirmé que le Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne examine la réponse des États-Unis aux commentaires de l'Iran sur le projet d'accord nucléaire de l'Union européenne ainsi que la réponse de Washington à ce projet. Mercredi 31 août, Washington s'est dit optimiste quant à la réponse iranienne pour relancer l'accord sur le nucléaire et la levée des sanctions anti-iraniennes. Selon les déclarations de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby a affirmé que Washington est optimiste quant aux pourparlers liés à ce dossier et espère toujours réactiver l'accord sur le nucléaire avec Téhéran, selon des médias américains. En visite à Moscou, mercredi 31 août, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a participé à une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Il a déclaré aux journalistes « Nous avons reçu le dernier texte de la partie américaine et mes collègues sont en train d'étudier la réponse ».
Voilà, de retour sur le plateau du débat du jour, nous allons évoquer, vous l'avez bien compris, cet accord, cette négociation nucléaire entre l'Iran et les pays européens. Mais alors, nous sommes en ligne, en direct par Skype avec André Chamy, juriste international qui est avec nous depuis Alsace. Alors, Maître Chamy, je vous dis bonjour et bienvenue sur le plateau de Presse TV. Maître, dites-nous, comment pourrait-on interpréter ces bâtons mis dans les roues des négociations par Israël, par le régime sioniste et cette tendance israélienne au sein de l'Union européenne, mais surtout au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique?
Vous savez, depuis le début de cette histoire, si je veux dire, sur le nucléaire iranien, ce qu'on a appelé le nucléaire iranien, il y a eu une opposition farouche de la part des autorités de l'entité sioniste pour justement que cet accord n'ait pas lieu. Alors, je dois préciser une chose quand même, que quelque part, ils jouent contre leur propre camp, parce que s'ils craignent que l'Iran parvienne à un seuil qui lui permettrait de produire la bombe nucléaire, là, ils sont en train de, je dirais, presque de faciliter la tâche à la République islamique d'Iran, parce que nous avons constaté au cours des dernières années l'augmentation de la capacité de l'Iran par rapport à ce qu'on appelle le pourcentage de purification de l'uranium. Et là, les derniers chiffres parlent de 60%, voire plus. Ça veut dire, quand on part d'un seuil qui était de 5%, on arrive à 60%, alors que les 20% étaient considérés comme déjà quelque chose d'exceptionnel, l'entité sioniste jouent incontestablement contre leur propre camp. Mais en réalité, ce que l'antisioniste cherche derrière tout ça, c'est de provoquer une situation de crise entre les États-Unis et l'Iran afin que, in fine, que cela aboutisse à une attaque de la part des Américains sur le territoire iranien, en tout cas qu'il y ait une véritable déclarée du côté des Américains contre l'Iran. Parce que Israël se trouve aujourd'hui dans une situation de crise intérieure, mais également de positionnement stratégique par rapport à l'Iran. C'est-à-dire, soit l'antisioniste laisse filer, si je vous dire, le développement de l'Iran, laisse filer le développement de ses capacités stratégiques et surtout de son projet pour toute la région du Moyen-Orient. Et à ce moment-là, c'est l'existence même de l'entité sioniste qui est en vue. Oui. Soit l'entité sioniste laisse créer une situation de crise entre les États-Unis et l'Iran. Et à ce moment-là, elle croit pouvoir tirer son épingle du jeu parce qu'elle ne serait pas concernée directement par le conflit, mais ce serait le problème des Américains. Sauf que les Américains eux-mêmes craignent cette confrontation et ils n'en veulent pas. Parce que je me rappellerai toujours du rapport qui a été établi par le patron, si j'ose dire, de la 6e flotte américaine qui œuvre dans la région du Golfe. C'était dans la perspective d'une éventuelle confrontation avec l'Iran. Et à ce moment-là, les conclusions de ce rapport disaient clairement que les forces américaines seraient submergées. Entre ces deux choix, les Américains ont préféré donc la possibilité de limiter la production nucléaire de la part de l'Iran et bien entendu à ce que ces contrôles puissent en quelque sorte, ne serait-ce que pendant des années, éviter que l'Iran ne puisse parvenir à la technologie de la bombe. Les Américains avaient compris que c'était de l'intérêt de tous de parvenir à cet accord-là. L'Iran n'y était pas opposé, non pas parce qu'elle abandonne une souveraineté, mais tout simplement parce que ça devait lui permettre d'arrêter les sanctions prises à son encontre, je dirais presque depuis 40 ans. Dans cet accord de gentleman, si j'ose dire, tout le monde se considérait comme gagnant. Sauf que l'accord a été rompu par les Américains, lesquels se sont retirés du jour au lendemain grâce ou à la cause d'une initiative de Donald Trump. Et depuis, les démocrates essayent, à travers Joe Biden, de revenir sur cet accord-là. Et par contre, ce qui a été fait, c'est de remettre tout l'accord sur le tapis. Là, maintenant, les Européens essayent de trouver, en quelque sorte, un modus vivendi, c'est-à-dire un accord de phase, un accord de transition pour aboutir à un accord définitif. Et pendant ce temps-là, bien entendu, il y aura une reprise de confiance, c'est-à-dire la levée des sanctions, et en même temps, il y aura une limitation des activités nucléaires. Sauf que, dans l'intermédiaire, si j'ose dire, de toute cette affaire-là, il y a l'agence de l'énergie nucléaire, l'AEA. Et cette agence-là a un rôle néfaste par rapport à l'ensemble de l'accord et par rapport même à ce que j'appellerais l'atmosphère de l'accord. Parce que c'est une agence de contrôle et c'est une agence qui doit apporter du crédit aux informations qu'ils transmettent. Et on constate qu'à chaque fois que les responsables de cette agence se rendent en Iran, ils vont en Israël pour rendre un rapport sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont constaté. Or, ce rapport-là et je dirais cette manière de faire rompt le rapport de confiance qui devrait exister entre l'Iran et cette agence. Parce que cette agence doit être comme elle a eu ce rôle par le passé, c'est-à-dire grâce aux moyens de contrôle, que cette agence puisse dire qu'effectivement nous sommes dans des circonstances qui démontrent que l'Iran a cessé toute activité contraire à l'accord et bien entendu qui confirme l'absence d'activité nucléaire militaire. L'agence joue sur les cordes sensibles et ne donne pas d'informations fiables, ne donne pas d'informations qui permettent d'apporter une garantie ou un crédit à ce que font les Iraniens comme effort pour démontrer leur clarté et leur transparence par rapport à leurs engagements. Évidemment, cela n'arrange pas l'Iran, mais en même temps, ça crée une crise de confiance qui aboutirait à un moment donné à une situation de crise. Les Européens viennent aujourd'hui pour dire finalement, on va essayer de rapprocher les points de vue et créer une sorte de filon pour que tout le monde arrive à avoir les informations dont elle a besoin et en même temps que l'Iran puisse voir la levée de ces sanctions ou des sanctions qui lui sont imposées. Nous verrons si les Européens sont sérieux dans leur démarche, parce que moi je dirais également que les Européens n'ont pas été non plus d'une grande transparence dans cette affaire-là, oui. Parce que après avoir signé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout dénoncé par le biais de la dénonciation des Américains. Nous verrons dans les prochains jours si les Européens sont sérieux et sont capables de tenir leur parole et sont capables de jouer les véritables intermédiaires honnêtes et loyaux. Et à travers ça, nous verrons à ce moment-là si un nouvel accord peut voir le jour et peut mettre tout le monde en confiance afin d'aboutir à une exécution des engagements pris.
Merci pour vos explications, maître. Restez avec nous. Alors, nous sommes également en ligne par téléphone avec Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Monsieur Rami, je vous dis bonjour et bienvenue sur le débat. Donc, vous avez entendu les explications de maître Chami en ce qui concerne cet accord. À votre avis, est-ce qu'un accord avec tout ce qui se passe en ce moment au sein de l'Union européenne, au sein de l'AIEA, serait envisageable entre l'Iran et les signataires de l'accord?
Un scandale. Disons, un culot de l'entité de l'occupation sioniste d'Israël. Plus de 100 atomes, la bombe atomique, c'est-à-dire que c'est un État qui occupe, qui est déjà en guerre, qui occupe une, et qui bombarde tous les jours la Syrie, et qui occupe un pays à l'arme atomique. Et veut empêcher l'Iran, qui n'a pas d'armes nucléaires, qui n'a pas de bombes atomiques, qui n'occupe aucun pays, de l'empêcher d'avoir d'énergie nucléaire, seulement civile. Et personne ne souligne aujourd'hui ça, ni même pas l'Iran. Pourquoi permettre à Israël de manipuler les États-Unis et les Européens, parce qu'Israël en réalité occupe les États-Unis aussi. N'occupe pas seulement la Palestine, occupe l'Europe, occupe tous les pays. Mm-hmm. Les lobbies, c'est le lobby juif aux États-Unis qui dirige la politique étrangère des États-Unis. Hein? Il n'y a pas une politique américaine indépendante. Dans la question palestinienne, il n'y a pas non plus une politique indépendante européenne. Donc tout ce qu'on fait maintenant, c'est seulement la position l'entité sioniste de l'occupation qui est en train d'être gérée par les Américains et par les Européens qui sont manipulés par le lobby juste qui a le pouvoir, qui occupe ces pays. Il y a un membre du Parlement américain qui a dit le Parlement américain, le Congrès américain, territoire occupé par Israël. Mm-hmm. Mmh. Oui. Donc, en fait, moi, je suis bien critique envers l'Iran qui accepte l'intervention d'Israël dans cette affaire, qui n'a rien à voir avec Israël, qui n'a rien à voir avec l'entité sioniste. Ce sont des négociations entre l'Iran et les États-Unis, ou bien les pays européens. Mais même si ces réticences viennent seulement d'Israël, parce qu'en fait, la République islamique d'Iran ne constitue aucune menace envers l'Europe ou envers les États-Unis, il n'a aucune arme nucléaire, alors qu'Israël a une arme nucléaire et que constitue. Il faut d'abord profiter de cette occasion de parler de l'arme nucléaire iranienne qui constitue une menace contre la République islamique d'Iran, puisqu'Israël menace toujours l'Iran et bombarde toujours la Syrie. Donc il faut, disons, étudier cette question d'une façon globale. Pourquoi même l'Iran, Israël, il faut dire qu'Israël, les Juifs dans le monde entier, fêtent chaque année leur fête, la plus grande fête juive qui s'appelle, cette fête juive qui, dans laquelle les Juifs fêtent et célèbrent l'extermination de plus de 75 000 Iraniens.
Hein? Oui.
C'est la fête du Purim, qu'on appelle le Purim. Hein. C'est une fête où les Juifs, tous les ans, fêtent et célèbrent, d'après leur Bible, l'extermination de plus de 75 000 Iraniens. Et l'Iran ne proteste même pas que, parce qu'Israël, aujourd'hui, célèbre cette occasion, célèbre cet anniversaire. Donc, en fait, c'est un scandale. Ça montre déjà comment l'entité sioniste domine le monde, domine tous les pays, domine la politique internationale. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut. Il faut mettre les choses. Il faut établir aussi l'égalité entre les peuples et entre les pays, même dans ce domaine. C'est un culot, c'est un scandale qu'Israël se mêle de la politique, de la production de l'énergie nucléaire en Iran, qui n'a rien à voir avec l'arme nucléaire.
Merci.
Il faut d'abord contrôler le problème, c'est Israël, c'est l'arme nucléaire israélienne.
Oui, oui.
Voilà.
Merci, monsieur Rami. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, maître Chami, l'Union européenne suit les politiques américaine non seulement dans le dossier nucléaire iranien, mais dans beaucoup d'autres dossiers internationaux, à savoir l'affaire ukrainienne. Donc, à votre avis, jusqu'où en fait se poursuivrait ce suivisme? L'Union européenne en subit même les conséquences de ce suivisme. Donc, jusqu'où pourrait se poursuivre ce suivisme aveuglé de l'Union européenne des politiques israélo-américaines?
Vous savez, de toute façon, ce suivisme-là est un suivisme suicidaire pour l'Europe. Mais nous sommes dans cette démarche européenne depuis de longues années maintenant, depuis des décennies, presque depuis je l'attribue à la naissance même de l'Union européenne. À l'époque, ça ne s'appelait même pas l'Union européenne. Parce que le but de la création de l'Europe telle qu'elle est constituée aujourd'hui, où il y a un abandon de souveraineté, c'est justement de vendre, entre guillemets, la décision politique, militaire, sécuritaire de l'Europe aux Américains. C'était l'intention des créateurs. Il y a eu des livres, notamment un livre qui a été dernièrement fait par un ancien responsable politique en France qui s'appelle M. De Villiers, mais il n'y a pas eu que lui, où le scandale concernant les documents qui ont fuité et qui maintenant qui sont devenus officiels sur la naissance même de l'Europe et qui démontre que cette naissance-là était liée à une décision américaine pour justement mettre la main sur l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, entre autres, la crise économique mondiale affecte plus l'Europe, au point de voir l'euro aujourd'hui se trouver en dessous de la valeur du dollar, parce qu'on est à 99 cents par rapport au dollar, c'est-à-dire il y a un problème majeur. Mais au-delà de ça, il y a le problème de l'endettement de l'ensemble de l'Europe qui n'est pas traité. Il y a l'ensemble des problèmes économiques de l'Europe et notamment leur émancipation par rapport à ce qu'on appelle du commerce international. Et là, il y a le problème militaire, parce que les Américains sont obligés, plutôt les Européens sont obligés de suivre les Américains dans cette affaire ukrainienne, mais derrière, qui est-ce qui en bave, si j'ose dire, ce sont les Européens. D'ailleurs, leurs déclarations ont été inconsidérées, puisque, par exemple, le ministre des Finances français disait, au début de cette crise, qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Ce qui s'est produit, c'est que c'est l'économie européenne entière qui se trouve à genoux face à la Russie, et la Russie n'en souffre pas tellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes devant une crise mondiale dont l'origine est la politique étrangère et la politique hégémonique américaine, et qui entraîne des dégâts sociaux, qui entraîne des dégâts économiques, qui entraîne des dégâts même politique, parce qu'aujourd'hui, tous les systèmes sont menacés, même l'Angleterre qui est sortie de l'Europe aujourd'hui. Nous constatons qu'il y a une crise économique sans précédent en Angleterre, c'est-à-dire même ceux qui sont sortis entre guillemets de l'Europe mais qui sont restés rattachés à la politique américaine telle que la Grande-Bretagne, évidemment subissent cette crise et subissent ses conséquences. Ces conséquences-là vont, dans les prochains mois, donner malheureusement des séquelles ou sinon des conséquences sur l'ensemble des sociétés européennes. Mmh. Et aujourd'hui, cette crise n'a pas de perspective. C'est-à-dire, si nous savons que l'Europe va s'en sortir dans un mois, trois mois, cinq mois, comme certains responsables économiques l'affirment, je pourrais même l'admettre. Mais en réalité, personne aujourd'hui n'est capable de dire si l'Europe va pouvoir sortir de cette crise en 2023 ou 2024 ou 2025. Parce qu'en réalité, ce sont les fondations de l'économie européenne qui sont menacées. Et si les fondations devaient s'effondrer, et bien entendu, c'est une crise mondiale qui s'annonce avec des conséquences que l'on ne peut même pas imaginer. Et évidemment, c'est l'ensemble de la population européenne qui va en supporter les conséquences, avec une possibilité de déstabilisation majeure dans cette région-là.
Merci pour vos explications. Alors, Monsieur Rami, nous avons près de 2 minutes devant nous. Et à votre avis, est-ce qu'en fin de compte, les États-Unis feront preuve de bonne foi? Est-ce qu'un accord final serait à portée de main entre l'Iran et les signataires de cet accord en 2015?
Écoutez, le monsieur que j'ai écouté maintenant parle de politique hégémonique européenne ou américaine.
Oui.
La France n'a aucune politique hégémonique en Israël. Il n'y a pas d'un lobby français ou un lobby américain en Israël qui manipule la politique israélienne. Et par contre, il y a un lobby juif sioniste aux États-Unis qui domine, qui gouverne les États-Unis. Et il n'y a pas les problèmes économiques existent chez tous les pays. Mais le problème là qu'on discute maintenant, c'est le problème de l'énergie nucléaire de l'Iran. L'Iran, selon Israël, n'a pas le droit d'avoir une politique libre de production, comme la Suède par exemple, de son énergie nucléaire. Hein. Israël se mêle et mobilise l'Europe et mobilise les États-Unis pour imposer à l'Iran la volonté d'Israël de l'occupation juive. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, comme j'ai dit, une hégémonie américaine en Israël, c'est-à-dire qui manipule Israël. Ce n'est pas les États-Unis qui manipulent Israël, c'est Israël qui manipule les États-Unis. Toute la politique unisienne ou européenne, la question palestinienne, ne sert pas les intérêts de l'Europe ou de l'Amérique, sert les intérêts seulement d'Israël. Donc, la politique étrangère des États-Unis et de l'Europe sont dominés et sont aussi produits par le lobby juif, par le pouvoir juif dominateur dans ces pays. Voilà.
Merci pour vos explications, Monsieur Rami. Alors, pour ce débat, on était avec André Chami, juriste international depuis Alsace, Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis la Suède. Et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous pour un autre débat du jour évoquant le sujet de l'accord nucléaire entre l'Iran et l'Union européenne. Pour revoir toutes les informations, les émissions, vous pourriez également consulter notre site Internet à l'adresse french.presstv.ir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 18e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Nous avons un droit, nous exigeons qu'il nous soit donné. Sinon, nous monterons à dos de notre monture et nous irons le chercher nuit et jour. Dans cette maxime de la voie de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il souligne l'importance du droit et de son recouvrement pour chaque individu qui considérerait la privation de son droit comme une injustice. Ceux qui font de l'oppression et de l'injustice ne prospéreront jamais. Ceci est une promesse de Dieu le Très-Haut dans le Coran. Cela signifie qu'ils n'atteindront jamais le succès dans ce monde, le succès dans son véritable sens. Ils feront également face aux conséquences de l'injustice dans l'au-delà. Ils échouent donc dans les deux mondes. L'oppression et l'injustice signifient que les choses ne sont pas mises à leur place. L'injustice est tout ce qui est fait contre les lois de la perfection de l'âme, aussi bien que ce qui est fait contre les autres en les privant de leurs droits. Cela inclut les notions comme la violence, la tricherie, les détournements de fonds, les abus et tout ce qui peut nuire à autrui. Un oppresseur et un injuste sont ceux qui ne sont pas reconnaissants pour les bienfaits reçus de Dieu et qui ne se considèrent responsables envers personne. Le prophète de l'islam dit « Faites le bien » et renoncer au mal. L'injustice est de trois sortes. En premier lieu, l'injustice qui n'est pas pardonnée, comme associer quelque chose à Dieu. À ce propos, Dieu a dit, « Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. » Deuxièmement, l'injustice qui est pardonnée. Par exemple, l'injustice que l'on commet contre soi-même. Et troisièmement, c'est l'injustice qui n'est pas pardonnée. Il s'agit de l'injustice que l'on fait subir à autrui. L'injustice détruit l'individu aussi bien que la société. Il endommage le système qui doit régner sur le monde. Dieu Tout-Puissant a créé un système et des lois afin que la vertu et la paix prédominent. Les humains violent ces lois et leurs vices incontrôlés engendrent le désordre dans la société. L'injustice a d'énormes répercussions sur la société. Les humains deviennent incapables de tirer le meilleur parti de leur potentiel à cause de l'injustice qu'ils subissent de la part des autres. L'oppression a également propagé la corruption sur Terre. C'est pour cela qu'il est fermement condamné par l'islam. De nombreux versets du Coran parle sévèrement des injustes. Dieu dit « Et ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Le Coran dit aussi « Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. » dans le sermon 215 de la Voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali, béni soit-il, premier imam des chiites, dit « Je préfère passer la nuit en éveil sur les épines piquantes que de rencontrer Dieu et son messager le jour du jugement dernier en tant qu'oppresseur envers quiconque et en tant qu'usurpateur de quoi que ce soit des richesses de ce monde. Par Dieu, si on me donne les 7 continents, avec tout ce qu'il y a sous leurs cieux, pour que je désobéisse à Dieu en extorquant la croûte d'un grain d'orge à un fourni, je ne le ferai jamais. L'injustice est le résultat de l'absence de croyance en Dieu et en l'au-delà. On ne craint pas d'avoir à rendre des comptes. Il y a également un manque de contrôle des impulsions des désirs matériels. L'avidité pour la richesse et le pouvoir domine l'âme et aucune limite n'est respectée quant à la réalisation de ses désirs. Une telle personne ressemble davantage à une bête sauvage devenue incontrôlable. L'histoire de Karbala donne un exemple sans précédent de lutte contre l'injustice. Cela montre aussi comment ceux qui sont injustes ne réussiront jamais. Finalement, c'est le petit groupe de personnes déterminées qui a défendu la justice qui réussira.
Thank you.